Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs dans le Messie Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son nom soit glorifié, parce qu'il nous a donné encore la grâce de vivre jusqu'à maintenant, de se parler et surtout de pouvoir communiquer et de pouvoir donc parler de sa part. J'ai intitulé cette petite réflexion « Pourquoi l'Église devrait réhabiliter le nom Yeshua ?» À travers ce titre ou bien cette réflexion, je voudrais répondre à tous ceux qui se posent la question ou bien qui se demandent « Pourquoi ?» Le frère Laurent appelle Jésus Yeshua, alors que nous l'avons connu avant, au début de sa vie, avec le Messie Jésus. Et voilà, et maintenant, il ne parle que de Yeshua. Dans ses exhortations, dans ses prédications, dans ses messages. Donc, je voudrais à travers donc, cette réflexion répondre à toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs, et puis également les rassurer que j'ai changé, mais que je n'ai pas changé, et que je garde la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, même si aujourd'hui, de par mes études, par mes recherches, je suis devenu plutôt hébraïsant. L'hébreu est une langue merveilleuse, puisque c'est la langue de la Bible. C'est la langue des premiers disciples. L'hébreu et l'araméen, l'hébreu biblique, et l'araméen, c'est la langue des prophètes du commencement des Écritures. Et c'est la langue, aussi l'araméen que parlait le Seigneur Jésus, de son vrai nom, Yeshua. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de prénom dans la Bible, il n'y a que des noms. Lorsque le français traduit le nom du Seigneur en Jésus, le Christ, normalement on ne devait pas dire Jésus-Christ, on devait dire Jésus le Christ. De la même manière, on ne devrait même pas dire Jean-Baptiste, on doit dire Jean le baptiseur. Voilà. Yohanan Amatbil. Donc, pourquoi l'Église devrait réhabiliter le nom Yeshua? La réponse la plus simple à cette question, c'est de dire que c'est le nom qui lui a été donné. Parce que Yeshua a une signification et porte un message. Parce que la tradition de Yeshua, voilà, c'est Dieu sauve. Dieu est salut, Dieu sauve. Yeshua, c'est la forme araméenne, la contraction araméenne de Yehoshua ou Josué. C'est la même chose. L'Éternel est sauveur. Vous voyez qu'on peut établir un parallèle entre Josué et Yeshua. Josué introduit le peuple sorti d'Égypte dans la terre promise. Yeshua, appelé en français Jésus, introduit le peuple sorti, qu'il a racheté du monde et du péché, il introduit dans le royaume de Dieu. Donc nous allons lire d'abord dans Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, le verset 21. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 1, le verset 21. On nous dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous voyons que ça, c'est la tradition française, c'est la Bible traduite. Mais lorsque cette parole a été dite, cette parole n'a pas été prononcée en français, mais en hébreu. Donc, c'est le nom Yeshua qui a été donné. Qui a été donné? Et c'est l'ange qui parlait donc à Joseph. Et cet ange-là ne parlait pas français. Il n'y avait aucun français à Jérusalem à cette époque. Aucun Togolais, aucun Mexicain, aucun, je ne sais pas, Allemand, aucun Français, quoi. Aucun Russe n'était présent à Jérusalem en ce moment-là. Il n'y avait que des Hébreux, des Juifs. Luc 1, le verset 31. On a lu Matthieu 1, le verset 21. Luc 1, le chapitre, le verset 31. Ce nom, Yeshua, a été donné par Dieu lui-même. Et c'est ce nom, Yeshua, qui a été traduit en français, Jésus. Voilà. Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas de J en hébreu. C'est le Yod. C'est le Y. Si les gens, en tout cas les traducteurs, avaient conservé le nom en grec aussi, ben ce serait compréhensible. Jesus, ou bien, comme on le voit en espagnol, hein, Jesus. Voilà. Je lis Luc 1, le verset 31. Luc 1, le verset 31. C'est l'ange qui parlait donc à Myriam. Le verset 31, Luc 1. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, de Jésus. L'Éternel sauve, ou l'Éternel est sauveur, Yehoshua ou Yeshua, qui contient donc les deux premières lettres du nom divin, le Yod et le He, Yehoshua. Voilà. Parce que selon la prophétie, comme l'Éternel Dieu même lui a dit, que son nom sera en lui, dans le Messie. Donc nous voyons que c'est ce nom-là que l'Éternel Dieu lui-même a donné à son fils. Il est vrai que le nom de Yeshua a été traduit, modifié. Hein? Si vous allez un peu partout, donc on l'a appelé de différents noms, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui se plaignent, par exemple en Afrique, pour dire alors pourquoi on l'appelle Yeshua, pourquoi on l'appelle Jésus, mais écoutez, si par exemple un pays africain avait été colonisé par les Allemands, mais vous prononcerez le nom de Jésus en allemand, n'est-ce pas? Mais en prononçant ce nom traduit, ce nom a perdu tout son sens. Ce nom est aujourd'hui galvaudé, n'est-ce pas? Quand on dit Jésus, ça ne veut rien dire. Mais quand on dit Yeshua, ça veut tout dire. Puisque le nom déjà porte la mission de ce qu'il est, de ce qu'il est venu faire. Yeshua, l'Éternel sauve, ou Dieu sauve, Dieu sauveur. Voilà, on peut aussi le traduire ainsi. Voilà à peu près la première réponse que je peux donner. Nous pouvons aussi lire dans Luc 2. Luc 2, le verset 21. Puisque Yeshua a reçu son nom à la circoncision. Luc 2, le verset 31. Le huitième jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant, c'est le nom donc que l'ange a indiqué. Et les parents n'ont pas dérogé à cette règle-là, ou bien à ce que l'ange leur a dit. Ils ont donné donc au Messie, donc le nom de Yeshua. Je dis Yeshua, c'est la forme contractée et le nom complet, c'est Yehoshua. Donc voilà. Donc, au début, donc, tout le monde l'appelait ainsi. Ainsi. Si par exemple, mon frère, ma soeur, on t'appelait, tu es né sous le nom de Bonvi par exemple, et que comme ce son n'existe pas en français, donc en arrivant en France, les Français ont dit, bon, toi, on va t'appeler Bonvi. Ben, ça ne veut rien dire dans ta langue maternelle, quoi. Ça ne signifie rien. Alors que quand on prononce Bonvi, par exemple, voilà, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Donc, c'est un exemple que je voudrais simplement donner. Et deuxième argument, vous savez tous que l'Église apostate a utilisé le nom de Jésus pour commettre des actes criminels, pour commettre des massacres. Je ne parle pas que de la colonisation, je ne parle pas que de l'esclavage, je parle aussi des pogroms, du massacre des Juifs, les croisés qui ont massacré des Juifs. Même à la Saint-Sylvestre, ont massacré encore des Juifs, c'est-à-dire le 31 janvier, le 31 décembre, que beaucoup de chrétiens fêtent, en tout cas beaucoup de croyants fêtent aujourd'hui, célèbrent, alors que cette date-là n'a rien à voir. Hein? Nous ne devons même pas célébrer ça. Hein? En tout cas, ça c'est mon opinion, ça c'est entre parenthèses. L'Église, au nom de Jésus, a commis beaucoup de massacres. Et pendant l'Inquisition même, on torturait les gens. Et pour éviter que Jésus ne regarde vraiment, c'est vraiment absurde. On couvrait d'un tissu violet le visage de soi-disant Jésus sur la croix. On couvrait son visage pour qu'il ne soit pas témoin des atrocités qu'il commettait en son nom. Vous comprenez ça? Et à cause de cela, certaines personnes aujourd'hui, quand on leur parle de Jésus, ben, ils ont un sentiment de rejet. Ils ont, en Afrique ou en Israël, parmi les Juifs aujourd'hui, je discutais avec une de mes amies, qui est aussi en même temps un confrère juive. Quand on parlait, elle dit, ah non, celui-là, je ne l'aime pas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Celui-là, je ne l'aime pas. Je ne veux pas ce nom-là. Et effectivement, si aujourd'hui, l'Église veut entrer vraiment dans le plan de Dieu, je parlerai du plan du Seigneur tout à l'heure. Si l'Église veut redorer son blason, si l'Église voudrait, par exemple, être un instrument dans la main de l'Éternel pour attirer le peuple que l'Éternel a connu d'avance, il faudrait réhabiliter le nom Yeshua. Parce que c'est ce nom-là que les Juifs reconnaissent. Il y a une prière des Juifs séfarades à un certain Yeshua. Ben oui, Yeshua qui est assis sur le trône. C'est vrai, c'est une prière des Juifs séfarades. C'est-à-dire que des Juifs qui viennent du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Afrique du Nord. Il y a cette prière-là. Donc, nous voyons que ce nom a été associé, hein, ce nom a été associé à beaucoup de vilaines choses. Les croisés, comment ils ont violé, massacré les gens à Jérusalem, dans leur conquête de Jérusalem. parce que les Juifs, les Hébreux en général, ont été accusés d'avoir tué Dieu. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Non, on ne peut pas tuer Dieu, mes frères et sœurs. Alors que ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Yeshua. Donc ce sont les Romains, les païens, en complicité donc avec l'élite, avec le clergé juif, alors que le peuple n'a rien à voir là-dedans. C'est un mensonge que l'Église apostate a répandu pour continuer de vilipender, donc, de détruire, donc, les Juifs. Même aujourd'hui, cette Église apostate avait prophétisé que les Juifs ne reviendront plus jamais à Jérusalem. Mais les Juifs sont revenus. Parce que c'est selon le plan de l'Éternel Dieu. C'est lui, l'Éternel Dieu, qui détermine. Aujourd'hui, certains milieux juifs prennent cet argument pour dire que le christianisme est une fausseté. Or, ceux qui ont donné cette prophétie ou bien avancé cet argument n'étaient pas de vrais chrétiens, n'étaient pas de vrais disciples de Yeshua. Hein, puisque les premiers disciples même étaient tous juifs. Combien de Français étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte? Combien de Togolais? Combien de Russes? Hein? Bon, ils n'existaient même pas à l'époque. Combien d'Américains? Combien de Nigériens? Combien d'Amérindiens? Je ne sais pas. Qui étaient là à Jérusalem le jour de la Pentecôte? Au Shavuot? Il n'y en avait pas, mes frères et sœurs. C'étaient des Juifs exilés de la diaspora qui étaient revenus et qui sont partis après leur conversion dans leur pays d'adoption pour répandre aussi l'évangile. Troisième argument pour que l'Église réhabilite le nom Yeshua est que l'Église est un signe pour Israël. Mais oui, l'Église est un signe pour Israël, est un signe pour lui. Lisons dans Romains 10. Ok, avant cela, je disais tout à l'heure que Yeshua parlait hébreu. Lorsqu'il s'était adressé à Shaul sur la route de Damas, lisons cela. Dans Actes 26, le verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, le verset 14, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Shaul connaissait le grec, non? Mais Yeshua choisit de s'adresser à lui en langue hébraïque. Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Mi ata, Adon, Adon, mi ata, Adon. Et le Seigneur dit, je suis Jésus, Yeshua, que tu persécutes. Voilà, donc le Messie, Jésus s'était adressé donc à Shaul, qui va devenir Paul après, en langue hébraïque. Voyons, en langue hébraïque. Donc, Jésus n'a pas, le Seigneur, le Messie, n'a pas parlé français et autres, mais le Messie a parlé la langue hébraïque, c'est-à-dire l'hébreu, et il s'est nommé lui-même Yeshua. Donc, troisième et dernier point que je voudrais aborder, lisons cela dans Romains 10, le verset 19. Romains 10, le verset 19. Romains 10, le verset 19, donc je lis. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère pas une nation sans intelligence. Donc l'Église devait être plutôt un objet de jalousie, devait inciter la jalousie d'Israël, parce que Israël était tombé, avait les yeux obscurcis, était tombé, était dans la chute. Et jusqu'à aujourd'hui, certains juifs ne reconnaissent pas Yeshua comme le Messie. Voilà. Mais quand même, ça a beaucoup progressé, l'évangile dans les milieux juifs, puisqu'aujourd'hui nous avons des juifs pour Jésus, nous avons l'Église messianique qui s'est répandue partout dans le monde, et l'essor de l'Église messianique continue encore d'augmenter. Cela nous montre même que nous sommes à la fin des temps et que l'Éternel progressivement se tourne vers le peuple qu'il a connu d'avance. Donc ici on nous dit, lisons bien, je dis Israël, ne l'a-t-il pas, que j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une ethnée. Le mot nation ici, ethnée. Effectivement, l'Église n'est pas un peuple, n'est pas une ethnie, puisque l'Église est composée d'une multitude de gens issus de différentes nations. Voilà. Donc ici, l'Esprit Saint parle de l'Église. C'est l'Église qui doit être un objet d'excitation, doit inciter la jalousie, la curiosité, la curiosité donc d'Israël. Jalousie ici, c'est parazélos, parazélo, doit inciter donc la jalousie, la curiosité d'Israël. Lorsque Israël, les Juifs vont voir, mais ces gens-là, comment se fait-il qu'ils utilisent la même Bible que nous? Ils parlent du Messie Yeshua. Mais oui, ils comprennent ce que c'est Yeshua. On peut faire le parallèle avec Josué. Voilà. L'Église devait inciter la jalousie, mais aujourd'hui, non. Dans certains milieux, quand vous parlez d'Israël, d'Hébreu, les gens vous rejettent. Les gens vous disent, ah oui, oh, nous ne voulons pas de judaïsation. Non, on ne judaïse pas. Mais au commencement, c'était ainsi. Moi, je pense même que c'est Dieu lui-même qui a appris l'hébreu à Moïse. Comme il lui a montré aussi les tabernacles. Le tabernacle qu'il lui a montré, le modèle, puisque la Bible nous dit les 10 commandements ont été écrits par le doigt de l'Éternel Dieu. Le doigt de Dieu lui-même. Donc, il a dû enseigner à Moïse la langue hébraïque, puisque Moïse a passé combien de temps? 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Mes frères et sœurs, comprenons ce que nous dit la Bible. Donc ici, on parle de l'Église, puisque l'Église n'est pas une ethnie, alors qu'Israël est une nation, est un peuple. L'Église est formée d'une multitude de gens issus de différentes nations. Donc c'est avec eux qui n'est pas une nation, une ethnée. Le mot, c'est ethnie. Ethnée, d'où en grec, d'où le mot ethnie, pour désigner donc les peuples, les tribus, ainsi de suite, ou une ethnie. Et je provoquerai votre colère, pas une nation sans intelligence, pas une ethnée sans intelligence. Et effectivement, les Juifs considéraient les autres, les païens, les autres peuples comme des peuples sans Dieu, sans connaissance. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ils sont des gens impurs, des gens qui n'ont pas la connaissance, qui ne connaissent rien à la vie, qui sont des idolâtres, qui sont aveugles. Mais c'est par eux, lorsque le réveil, lorsque ces gens vont se tourner vers l'Éternel Dieu, vont invoquer le Dieu d'Israël, vont invoquer son Messie, Yeshua. Ah, les Juifs sauront que les temps sont proches. Ils vont se poser des questions. Ils vont exciter leur colère. Comment ces gens viennent adorer notre Dieu? Et ils parlent de Yeshua. Et Dieu les exauce. Comment se fait-il? N'est-ce pas que l'Éternel n'exauce pas des pécheurs? Ces gens sont des gens impurs, sont des pécheurs, c'est les gens des nations. Vous savez, lorsque les papous, vous savez, les papous convertis au Messie Jésus sont venus à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte ou Chavo, non, oui, non, c'est pas Pentecôte, des tabernacles, des cabanes. À la fin, il y a une procession pour toutes les nations. Et les papous sont venus offrir de l'or. De l'or. Ils sont venus offrir de l'or. Donc, à Jérusalem, aux rabbins, ils ont pleuré. C'est grâce à Yeshua que ces papous-là sont venus. Ces papous qui se trouvent à l'extrémité, les gens qui étaient considérés, certains d'entre eux, comme des cannibales, des arriérés. Arriérés de chez arriérés même. C'est des peuples sans intelligence, on peut le dire comme ça. Et ils sont venus pour célébrer le Dieu d'Israël et son Messie à Jérusalem. Et ils ont apporté comme cadeau de l'or pour glorifier Dieu. C'est ça. Donc, à travers le témoignage des chrétiens, on a des témoignages un peu partout. À travers des témoignages des croyants en Yeshua, des autres nations, certains juifs sont venus à la véritable évangile. Oui, à l'évangile. Au véritable évangile plutôt. Certains juifs se sont convertis. Certains juifs qui ne voulaient pas de Jésus ont découvert Yeshua. Comme Shaul ici a découvert Yeshua alors qu'il persécutait l'Église avant, les croyants avant. Certains juifs qui étaient réticents ont découvert Yeshua à travers la prédication, à travers la vie simplement de certains frères et sœurs, mes frères. Donc pour que l'Église rentre dans cette prophétie, il faut que l'Église réhabilite ou que nous réhabilitons le nom Yeshua. Parce que c'est le nom, le véritable nom du Messie. C'est le nom du salut. L'Éternel sauve. L'Éternel est sauveur. Romains 11, le verset 14, le verset 11 et 14. Nous lisons Romains 11. Hein. Après le 10, on va dire Romains 11. Le verset 11, 11. Je dis donc, est-ce que pour tomber, qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. C'est ça. Par leur chute, leur aveuglement, leur rejet du Messie, le salut est accessible à nous tous aujourd'hui. Parce qu'avant, nous n'avions pas de salut en Israël. Enfin, qu'ils soient excités à la jalousie. C'est ça. Le Seigneur Dieu est allé chercher des peuples que les Juifs considéraient comme des païens, comme des arriérés, comme des aveugles, comme des gens sans intelligence, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du vrai Dieu. C'est par ces gens que l'Éternel veut amener Israël à se poser des questions. Mais si nous-mêmes, nous ne nous conformons pas à la parole, comment c'est le peuple que l'Éternel a connu d'avance viendra-t-il à la lumière? Mes frères, je pense, en tout cas c'est mon opinion, hein, que l'Église devrait réhabiliter le nom Yeshua. Je ne dis pas qu'il faut prononcer Yeshua à tout bout de champ, ce n'est pas une formule magique, hein, comme la prière aussi n'est pas une formule magique, comme on dire au nom de Jésus à la fin de chaque prière, hein, ne force pas la main de l'Éternel Dieu. Seule la foi compte, seul le cœur que tu as, parce que l'Éternel voit dans ton cœur. Même si tu dis Jésus et tu sais de qui tu parles, pas l'image de Jésus qu'on nous donne. Effectivement, je suis aussi affligé de voir que dans certaines églises évangéliques et autres, dans leurs revues, tout ça, ils mettent l'image de cet homme blond, aux yeux verts ou bleus, les cheveux longs, alors que nous le savons tous aujourd'hui, puisque la connaissance a augmenté, que la photo qui est représentée n'était que la photo d'un Européen. D'un Européen, il paraît même que c'était le cousin ou le neveu de Borgia. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'était ça. Ce n'était pas le Seigneur Yeshua qu'on représente sur ces images. Et de la même manière même, on vend aujourd'hui des photos. Après le film de Mel Gibson, moi je trouve que ce film-là n'est pas approprié. En tout cas, vous connaissez mes opinions sur les films aujourd'hui. Dans certaines assemblées de l'église, de la grande église, l'église multidiniste, on voit ces photos du extrait de ce film dans ces bâtiments. De l'acteur qui a joué ce film, on met sa photo comme représentant la photo du Seigneur Yeshua. Quel blasphème! Ça, c'est un autre Jésus, mes frères. Nous devons nous détourner de cela. Ne pas représenter cette image-là, c'est de l'idolâtrie. Si nous voulons coûte coûte illustrer, mais le Seigneur Jésus, mettons un homme et puis mettons à son visage comme une lumière pour qu'on ne voit pas son visage, pour qu'on ne puisse pas objectiver ses traits, mes frères et sœurs. En tout cas, c'est mon opinion. Hein. Lisons Romains 11, le verset 14. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Bon, je vais tout lire plutôt. Hein. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. En fait, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Oui, l'Église a une mission envers les Juifs, envers Israël aujourd'hui. L'Église doit devenir Église. L'Église doit se conformer à la parole. Nous, les croyants, nous devons vraiment respecter, réhabiliter la Bible, respecter la parole de Dieu. Nous devons expurger l'Église de certaines doctrines, comme la doctrine du remplacement, en disant que l'Église a remplacé Israël. On voit encore certains croyants qui disent des choses pareilles. Et quand tu leur parles, « Oh non, les Juifs ont fait ceci, les Juifs ont fait cela », je pense que ces affirmations ont un relent d'antisémitisme. Et l'ennemi de nos âmes excite l'Église contre donc Israël, mes frères. Nous ne devons pas participer à cela. Aucune nation dans ce monde n'est blanche. Hein. Toutes les nations ont les mains remplies du sang. Les gouvernements du monde entier ont les mains tachées du sang de leurs propres citoyens et des autres peuples également. Aucune nation n'est blanche. Aucun régime n'est blanc dans ce monde. Donc, arrêtons tout temps de juger, de mettre un fardeau très lourd sur le dos d'Israël, ainsi de suite. Dieu s'occupe d'eux. Même si aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, Israël aussi s'est tellement corrompu qu'aujourd'hui, on célèbre cette fête abominable qu'on appelle la Gay Pride à Jérusalem. Mes frères et sœurs, ben c'est possible, vous voyez. Ah oui, il y a un verset comme ça dans Ésaïe, qui disent que Jérusalem est devenue comme Sodome. Mais oui, mes frères et sœurs, même le péché a gangréné. Et beaucoup de chrétiens pensent que tous les juifs sont des croyants. Non, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'athées là-bas, beaucoup de juifs culturels qui ne sont pas religieux, qui ne connaissent pas l'éternel Dieu, qui sont athées ou bien qui sont d'autres religions, beaucoup de francs-maçons aussi parmi eux, ou bien de sectes hindouistes également parmi les juifs. Donc ne pensons pas que tout Israël connaît l'éternel Dieu. D'accord? Et l'Église, en tant qu'Église, l'Église a un rôle primordial à jouer. Nous, les croyants, nous avons un rôle primordial à jouer. Réhabilitons le nom Yeshua et conformons-nous à la parole de l'éternel Dieu. Même si nous devons prononcer le nom de Jésus, nous devons expliquer cela. Parce qu'aujourd'hui, ce nom est galvaudé. Ce nom est taché avec l'histoire de l'Église apostate. Vous savez, l'ennemi a bien joué les choses. L'ennemi veut jouer l'Église, en tout cas quand je parle, pas la vraie Église, mais l'Église apostate contre Israël. Et comme les Juifs ne font pas, certains Juifs, je dis, ne font pas la distinction entre la grande Église et les vrais croyants en Yeshua ou dans le Messie Jésus, voilà, ils font l'amalgame de tout. Quand des fois je discute avec certaines personnes, je vois ça, qu'ils ne savent pas. Pour eux, le christianisme, c'est l'Église catholique. Nous devons aussi savoir cela dans notre communication. Si le Seigneur nous permet d'être en contact donc avec des Juifs, il faudrait savoir leur parler et ne pas dire n'importe quoi pour leur fermer la porte du salut, mes frères et sœurs. Voilà. Et puis également, nous sommes tous des instruments entre les mains du Seigneur. Hein. Nous avons tous notre rôle à jouer. Peut-être que vous ne pouvez pas être hébraïsant comme moi, parce que nous n'avons pas les mêmes missions, les mêmes rôles, les mêmes fonctions dans l'Église ou dans la maison de l'éternel Dieu. Mais néanmoins, ne soyez pas scandalisés, parce que j'appelle Jésus Yeshua, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom, il n'y en a pas d'autre. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, et c'est le nom que l'ange lui a donné, c'est ce nom que l'éternel Dieu lui a donné avant même sa conception. Oui, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Comme aussi, c'est l'éternel Dieu qui a donné le nom de Samson également. Ainsi de suite, donc, avant sa conception. Ou bien également, qui d'autre aussi avait Jean-Baptiste aussi, Yohanan, Jean également, Yohanan, à Matbil, Jean le baptiseur. D'accord, mes frères et sœurs, donc comprenez ce que je suis en train de dire. Et si vous avez des remarques, vous pouvez me les faire, hein. Nous sommes là pour nous fortifier, nous édifier les uns les autres, pour que nous progressons tous sur ce chemin dur et rocailleux. Loin des doctrines, là. Ça, ne vous enfermez pas dans des doctrines inutiles qui n'ont apporté rien à personne. Lisons la Bible et marchons selon la parole de l'éternel Dieu, mes frères et sœurs. Vous trouverez un article sur le site Campagne pour Yeshua. Vous trouverez un article que le Seigneur m'a permis d'écrire il y a quelques années. Je pense que c'est en 2020. Voilà, c'est pas loin, c'était hier. Donner à Jésus ce qui est à Jésus, c'est-à-dire son nom. Voilà, donner à Jésus ce qui est à Jésus. Je me suis inspiré de la parole que lui-même avait prononcée. Donner à César ce qui est à César. Mais tellement aujourd'hui l'antisémitisme a gangréné certains milieux chrétiens qu'il y a aussi une forme de jalousie. Parce que certains chrétiens sont jaloux des juifs. C'est comme si certaines dénominations plutôt ont une sorte de jalousie ou de gêne vis-à-vis d'Israël ou des Juifs à cause du problème palestinien. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mes frères, contentons-nous de la parole de Dieu et de la prêcher fidèlement à l'Évangile. Il faut savoir aussi que les doctrines issues des écoles bibliques occidentales aussi ont amené beaucoup, beaucoup de confusion dans le monde chrétien ou bien dans le christianisme. Donc, sortons de ces chantiers, de ces chantiers idéologiques et venons à la parole de Dieu. Retournons aux anciens bornes et l'Éternel nous conduira, peut-être pas vous conduira dans l'évangélisation des Juifs, mais vous conduira à mieux connaître sa parole et à mieux connaître le Messie. Ainsi, nous connaîtrons mieux le Père des Lumières. Yeshua lui-même a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse en parlant de nous, en s'adressant à son Père, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as donné pour salut, Yeshua. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen et Amen. Et que le nom de Yeshua soit élevé, puisque c'est l'Éternel lui-même qui l'a élevé au-dessus de tout nom. Qu'il en soit ainsi dès maintenant et au siècle des siècles. Amen et Amen.